Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Au début, on ne pouvait pas concevoir notre vie sans enfant, donc c'était le seul objectif.
Moi, ce qui m'a frustré, encore une fois, avec mon côté pragmatique, c'est de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas.
C'est important de pouvoir partager ce que, en tant qu'homme, en tant que femme, à son conjoint, à sa conjointe, ce que ça nous fait vivre, en fait, ce parcours de PMA.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors, Julien, Mathilde, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Eh bien, on vient discuter avec vous de notre parcours pour avoir des enfants.
Mm-hmm. Que s'est-il passé ?
Ça a été un parcours d'environ 5 ans, pendant lequel on a eu plusieurs étapes de PMA, mm-hmm. Ont été jalonnés de toute une plein d'émotions de couples, de futurs parents, de haut et de bas, et qui, je pense, nous ont fait grandir en tant que couple et aborder des questions finalement qu'on se pose assez peu quand on n'est pas confronté à ce type de problématique.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à devoir vous tournez vers la médecine, vers l'aide médicale pour avoir des enfants ?
Alors, moi, j'avais un problème physique qui faisait que, dès le départ, j'avais toujours su que j'aurais pas forcément des difficultés à avoir des enfants, mais au moins besoin d'un traitement médical et une approche médicale, en tout cas, pour avoir des enfants. Donc, en fait, quand on a décidé que c'était le bon moment pour nous, on est allé voir mon gynécologue et on a commencé par un traitement médicamenteux, hormonal, qui, au fur et à mesure des essais, des différents essais, s'est transformé en insémination d'abord et puis ensuite en FIV.
Donc, tout d'abord, vous avez commencé par des stimulations.
Voilà.
Donc vous aviez un traitement pour stimuler l'ovulation et essayer voilà, avec un rapport sexuel pour avoir des enfants, ensuite des inséminations artificielles et ensuite des FIV. Comment vous, Julien, vous avez vécu tout d'abord voilà, est-ce que vous saviez, vous connaissiez la difficulté de Mathilde pour avoir des enfants, en tout cas
Alors,
ce
oui.
problème médical ?
Oui. Depuis le début, on en avait parlé très très librement. Moi, j'avais évidemment aucun problème avec ça. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est les tests. Parce que même si on connaît la condition, même si on connaissait la condition médicale de Mathilde, il y a quand même eu des tests plus poussés pour elle, et puis évidemment des tests pour moi aussi, que j'ai pas bien vécu. On a eu de la chance, les tests étaient positifs, en tout cas montraient que c'était possible. Et ensuite, c'est un espèce de je ne veux pas dire tunnel médical, mais une fois qu'on rentre dans le processus, c'est jalonné de tests, de rendez-vous médicaux réguliers. Et quelque part, au début, on a quand même été relativement bien pris en charge dès le début, on avait un petit peu un arbre de décision devant nous. Ça veut dire qu'on savait par où on allait passer, si ça ne marchait pas, au bout de combien de temps on allait peut-être envisager une autre méthode, donc les hormones, l'insémination, puis si ça marche pas au bout d'un certain temps, la FIV. Donc en fait, dès le début, on s'est projeté dans quelque chose qui pourrait prendre des années. On s'est quand même dit au début, évidemment on souhaitait que ça soit le plus rapide possible, mais on envisageait quand même un parcours potentiellement un petit peu long.
Le fait d'avoir cette perspective dès le début, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est possible, comment vous avez vécu le fait d'avoir cette perspective ? De savoir que les choses peut-être, voilà, allaient pouvoir s'étaler dans le temps avec différentes étapes.
Oui, alors bon, ça évidemment c'était pas tout à fait évident, surtout qu'on avait autour de nous des gens qui commençaient à avoir des enfants de manière assez, en général, plutôt rapide et naturelle, on va dire. Il y a quand même eu une surprise pour nous, c'est finalement le temps que ça a pris, parce que mon gynécologue m'avait toujours dit « ne vous inquiétez pas, ça va être facile, vous êtes jeune, vous avez tel et tel facteur de protection, etc. » Et ça devrait aller vite. Donc, en fait, on savait que ça allait prendre un certain temps et qu'il y aurait un côté un peu mécanisé au processus, mais on n'avait pas tout de suite imaginé que ça prendrait plusieurs années.
Mmh. Voilà. D'accord. Julien, vous parliez des tests, alors vous disiez ça n'a pas été facile pour vous, j'imagine vous parliez du spermogramme. Comment vous l'avez vécu, ce test-là ?
Bon, moi ça va, je vais te dire, je me place toujours aussi en comparaison à tout ce que Mathilde a pu vivre, que ce soit au début, dans sa jeunesse même, quand on a découvert cette condition, ce problème. Et à côté, moi, c'était quand même pas vraiment très compliqué. Alors évidemment, vous allez dans un centre qui est un peu spécialisé, donc tout le monde est un peu là pour la même chose, donc ça donne toujours des ambiances assez bizarres, sans compter qu'il faut se masturber à 8h du matin, ce qui est contre-intuitif. Mais au-delà de ça, je l'ai pas tellement mal vécu. Évidemment, il y a un stress lié au résultat. Mais encore une fois, on a eu de la chance de ce côté dès le départ que de mon côté, on s'est rendu compte que voilà, les caractéristiques normales étaient là et que il y aurait pas de problème de ce côté-là. Mais comme l'a dit Mathilde, de son côté, à part un côté stimulation qui n'était pas présent et qu'il fallait donc artificiellement créer, il n'y avait pas de problème de son côté non plus. Donc en fait, la difficulté qu'on a eue très rapidement, et on va y venir, c'est que en fait tout aurait dû marcher, mais ça marchait pas. Et ceci, essai après essai, moi je suis quelqu'un d'assez logique et organisé, j'aime bien, je vous parlais tout à l'heure d'arbre de décision, j'aime bien savoir, et Mathilde aussi d'ailleurs, enfin sur ce coup-là en tout cas, savoir si ça marchait pas, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on avait un plan, mais c'est vrai que les échecs, je vais pas dire se multipliant, mais il y a eu un certain nombre d'échecs, sans véritable explication médicale. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est ce qui a été le plus difficile à gérer, en tout cas au début.
Oui, c'est un peu cette impression d'avancer à l'aveugle. De se dire, bon, ça n'a pas marché, ça aurait dû marcher. Et puis, on n'explore pas forcément derrière des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. On réessaye, avec le risque évidemment, ça ne marche pas à nouveau. Et c'est là que ça commence à devenir un peu plus difficile psychologiquement.
Sachant que le système français vous dit tout de suite, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous avez le droit à un tel nombre de ponctions, puis par, selon les embryons, tant d'insémination. Enfin, tout de suite, on vous dit, vous allez avoir le droit à tant de tests. Nous, notre expérience, ça a été qu'on n'a pas vraiment fouillé pourquoi les tentatives ne fonctionnaient pas. Comme disait Mathilde, c'était très bon, bah on se projette tout de suite sur celle d'après. Donc voilà, ça, vous êtes toujours dans le mouvement, donc il y a ce côté positif, mais à la fois, on s'est rendu compte, après quelques-unes, qu'on avait une frustration de ce côté-là, de ne pas comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné.
Bien sûr. Pour revenir sur les examens médicaux, vous, Mathilde, est-ce que, voilà, il y avait un problème, Julien nous expliquait, d'ovulation, défaillance de l'ovulation. Est-ce que vous avez dû passer des examens ? Comment, voilà, vous les avez vécus ?
Oui, alors il y a eu plusieurs examens. Je dois vous avouer que je ne m'en rappelle plus très bien aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'il y avait quelques examens, dont un qui était un peu douloureux et un peu invasif. Donc c'est toujours un peu choquant au début, surtout quand on est avant le processus de FIV et qu'on n'est pas habitué, etc. Donc ça, C'est un peu difficile. Après, on a rapidement les résultats et quand ils sont bons, c'est plutôt rassurant et puis on passe à autre chose. Et c'est aussi une manière d'entrer dans le processus de FIV, c'est-à-dire qu'il va se passer pas mal de choses médicalement qui sont invasives, qui peuvent parfois nous surprendre, qu'on préférerait ne pas avoir à vivre. Et pourtant, c'est ça aussi, ce parcours de PMA.
Bien sûr. Et ensuite, donc, après ces examens, il y a eu donc les stimulations, ensuite vous disiez les inséminations. Comment voilà, vous avez vécu les stimulations?
Les stimulations, j'allais dire, la partie la plus bizarre, c'est qu'il faut faire un peu l'amour sur commande. Puisqu'il y a une fenêtre et qu'il faut maximiser les chances pendant la fenêtre. Donc du coup, c'est un peu invasif dans la vie privée, du coup, parce que voilà, on calibre les fenêtres et il y a un côté un peu mécanique, même si on a envie l'un de l'autre et qu'on a envie d'avoir des enfants, évidemment on le fait, mais bon, ça change quand même un petit peu les choses. Mais après, par rapport à l'insémination, où là vous allez en milieu hospitalier, enfin en clinique, voilà, à la limite, la stimulation, on est encore à la maison et on fait les choses comme on l'entend. Moi, je suis toujours allé avec Mathilde à la clinique. Quand on met le doigt là-dedans, on sent qu'après, ça va devenir un petit peu, beaucoup plus médicalisé, quoi. Mmh. Et encore moins naturel. Mmh. Avant, c'est resté naturel, mais on avait une fenêtre où il fallait qu'on maximise les chances. Là, après, on n'a plus l'impression que c'est... c'est plus nous qui sommes les acteurs principaux.
Plus besoin de faire l'amour pour faire un bébé, quoi.
Ouais.
En gros. Mm-hmm. Ouais. Ça a changé quelque chose pour vous, pour chacun de vous?
Peut-être à ce moment-là, c'était il y a quelques années maintenant, mais on n'en a pas vraiment parlé, je ne l'ai pas vraiment intellectualisé, mais je suis très vite passé à autre chose. Et en fait, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose.
Mm-hmm. Pour vous, Mathilde?
C'est pas évident parce que, bien sûr, ça change quelque chose. On se dit que... Enfin, il y a quelque chose de magique quand on fait l'amour qui est... Après, on se dit, waouh, on a peut-être fait un bébé, quoi. Mm-hmm. Il y a peut-être quelque chose qui est né de cet amour-là, de cet acte d'amour-là. Pour moi, ça a changé quelque chose. Mais on était tellement concentrés sur notre objectif d'avoir des enfants que, bon, on passe mm-hmm. à autre chose. On n'y pense pas trop, quoi. Ça n'a pas eu énormément d'impact finalement sur notre vie sexuelle, le fait de plus avoir besoin de faire l'amour pour avoir un enfant, parce que par ailleurs les stimulations hormonales, en tout cas chez moi, ont créé une libido assez assez importante, quoi. En tout cas, donc on a eu une vie sexuelle finalement très épanouie pendant tout ce parcours de FIV.
Mmh. Et après les inséminations? Comment vous avez pu vivre? Il y en a eu déjà combien d'inséminations?
Je crois qu'il y en a eu 6.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous pouviez ressentir au moment de l'insémination, quand vous alliez à la clinique?
De l'espoir.
Au début, on ne pouvait pas concevoir notre vie sans enfant. Donc c'était le seul objectif. En revanche, on a eu des attitudes différentes pendant le parcours. Et Julien a tendance à être assez pragmatique, à aller de l'avant, être très positif, à toujours penser que ça va marcher. Et moi, de l'autre côté, j'étais un petit peu... Alors j'allais de l'avant et vraiment, je voulais avancer. J'étais aussi pragmatique finalement. Mais moi, j'étais beaucoup moins positive. J'étais beaucoup plus pessimiste et quelque part, par exemple, la période d'insémination, moi, j'ai presque pas eu d'espoir pendant cette période parce que quelque part, je pense qu'inconsciemment, en tout cas à un certain niveau, je pensais je savais un peu qu'on allait aller au niveau, enfin, à l'étape des FIV. Donc moi, je voyais ça comme une étape à passer rapidement, les inséminations, pour aller à mon objectif principal qui était les FIV, qui pour moi était ce qui allait marcher, quoi.
Et du coup, ces FIV, Mathilde, comment vous les avez vécues?
La partie préliminaire de la FIV, la ponction, a été assez douloureuse. J'ai assez mal vécu mes ponctions physiquement. Parce que je me rappelle que je ne pouvais pas marcher pendant une semaine. J'étais alitée pendant une semaine après les ponctions. Je connais plein de gens qui retournent au travail l'après-midi de la ponction. Mais moi, ça marchait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ça, c'était très invasif, très invasif.
Vous disiez tout à l'heure, Julien, que ça a été cette succession quand même d'échecs, ça a été quelque chose de douloureux. Vous disiez comment vous l'avez vécu l'un et l'autre?
Pour moi, ça a été très très dur. En fait, la surprise, elle est arrivée au premier échec de FIV. parce qu'on m'avait toujours dit que ce ne serait pas un problème pour tomber enceinte, qu'on me donnerait un petit médicament, en gros, et que bam, ce serait magique. Au moment de ma première insémination, mon gynéco m'avait dit « Bon, j'espère que vous êtes prête à avoir des jumeaux, hein, parce que ça va être du boulot. » Et moi donc je préparais avoir des jumeaux. Et puis finalement, le parcours était beaucoup plus long que ça. Donc, premier échec de FIV a été vraiment un choc pour moi, parce que je me suis dit « Oh, ma dernière... » La dernière solution, la dernière technique possible pour avoir des enfants qui sont biologiquement les nôtres, ben ça a l'air de pas marcher, quoi. Là, ça a été très, très dur. Je m'en rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps pendant plusieurs jours. J'étais inconsolable. Inconsolable.
Ouais. Plusieurs jours, plusieurs fois. Parce que moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce processus, c'est que, ayant probablement moins d'informations que Mathilde sur le processus en entier et notamment sur la différence entre les inséminations et les FIV, j'attendais pas impatiemment les FIV comme Mathilde en me disant c'est ça qui va marcher. Pour moi, on passait des haies, quoi. Moi, ce qui m'a frustré, encore une fois, avec mon côté pragmatique, c'est de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Particulièrement avec les FIV en France, qui était l'absence d'analyse des raisons pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné. Et la seule chose qu'on s'entendait dire, c'est avec la Sécu, vous pouvez avoir 4 autres essais. Le système français de ce côté-là est plutôt bien fait, mais c'était pas une raison pour ne pas se pencher un petit peu plus sur les raisons de l'échec et quitte à repousser potentiellement la prochaine, à faire, en tout cas moi, ce que j'aurais considéré bien, c'est-à-dire peut-être des tests complémentaires. Un test sur un autre traitement ou une autre stimulation pré-FIV. En tout cas, quelque chose qui, même psychologiquement, nous permette de nous mettre dans des meilleures conditions pour la prochaine.
Du coup, là, vous parlez de l'accompagnement par l'équipe médicale. Est-ce que vous êtes fait accompagner, aider par ailleurs ?
Non. On n'en a pas vraiment ressenti le besoin, en fait. On fonctionnait bien comme équipe.
On l'a dit, c'était notre objectif d'avoir des enfants. Mais malgré tout, ces années-là, on a vécu des très belles années aussi, à la fois dans le couple, on a continué à avoir des très beaux projets professionnels, on a fait des très belles vacances, il nous est arrivé plein de choses, on a déménagé aux États-Unis à la fin du processus en France. La dernière FIV en France, on l'a faite alors qu'on était déjà aux États-Unis. On a continué à faire d'autres projets de vie et notre vie a continué à avancer malgré la non-atteinte de cet objectif.
Oui, et puis alors, on voit notre couple se construire à travers ce processus, mais aussi, personnellement, on apprend à mieux se connaître. Moi, j'ai découvert certaines ressources que j'avais en moi. J'ai découvert que j'étais forte. Et ça, mais en fait, il faut des épreuves pour le savoir, vraiment. Et puis, finalement, à la fin du processus, on se rend compte qu'on a vraiment grandi en tant qu'être humain. On développe aussi plus d'empathie pour les autres, au passage, c'est-à-dire qu'on s'intéressait plus aux autres qu'avant aussi. Donc ça, c'est quelque chose, c'était un peu bizarre de le dire comme ça, mais c'était quand même une belle expérience dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a fait plein de choses, comme l'a dit Julien, et notre vie s'est pas du tout arrêtée, même si, bien évidemment, il y avait une angoisse sous-jacente de ne pas arriver à avoir d'enfants, qu'il y avait des moments très difficiles, personnellement, mais aussi, par exemple, professionnellement. Moi, j'étais très impactée par les stimulations. Avoir mes piqûres au frigidaire du bureau, à devoir sortir d'une réunion à 18h pile tous les jours pour aller se faire une piqûre, retourner en réunion, et puis avoir des humeurs qui sont extrêmement instables. Je me rappelle de phases de quasi-manie, quoi, où j'avais pas envie de dormir, j'avais envie de vivre ma vie, j'étais hyper intense, quoi. Et d'autres phases très déprimées, je savais presque pas pourquoi. Donc ça a quand même beaucoup impacté notre vie et moi ma vie professionnelle aussi. Ça a été, j'ai trouvé ça assez dur de maintenir une stabilité dans la vie professionnelle.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Voilà, vous disiez vous êtes partie vivre aux États-Unis, donc vous avez continué ce parcours aux États-Unis?
On a laissé passer un peu de temps entre la dernière tentative en France et celle aux États-Unis.
On a fait 1 an de pause.
Et comment s'est passée, du coup, cette tentative à San Francisco ?
Je vous parlais tout à l'heure de notre frustration par rapport à l'absence de tests
après les échecs. Mm-hmm. Là, on a rencontré une médecin qui était spécialisée dans ce genre de problématiques et qui a récupéré le dossier de France et qui a vu des manques dans les tests, justement, et qui a tout de suite vu qu'il fallait absolument limiter le nombre d'essais. Que, vu notre parcours, le temps que ça avait pris, le nombre d'essais, qu'il fallait vraiment maximiser, avoir toutes les chances de notre côté pour la prochaine tentative.
Oui, d'ailleurs, la première chose qu'elle nous a dit, c'est « je ne veux pas vous faire vivre un autre échec ». Donc on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et on a eu 6 mois de tests, on va dire, avant de faire la FIV, dans laquelle, en gros, elle essayait tous les paramètres du protocole de FIV. Et donc, elle essayait différents taux d'hormones, différentes. Et elle voyait comment mon corps réagissait à ça. Et donc, elle a dit, moi, je veux, quand je vous fais une FIV, je connaisse votre corps par cœur, et je sais comment il va réagir. Et en fait, c'est que quand elle s'est sentie prête à faire la FIV, la gynéco, qu'on l'a faite. On a fait une ponction, on devait faire la FIV juste après, elle a dit non, je le sens pas. Il manque, je sais plus si c'était des informations, mais je le sens pas. On congèle les embryons et on attend. On laisse un cycle. On l'a fait, moi j'étais un peu déçue d'ailleurs, je me rappelle, c'était un peu difficile en fait de voir que le protocole est bouleversé en fait. Et donc finalement, donc on a fait une FIV 2 mois après la ponction.
C'est-à-dire qu'il y a eu le transfert des embryons 2 mois après la ponction.
Voilà, exactement. Exactement.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Ben, on y est arrivé. Mm-hmm. On y est arrivé, la FIV a fonctionné.
Avec une dernière mini descente aux enfers, où pour le coup, Mathilde a pensé que ça n'avait pas marché.
Oui, j'y croyais plus,
donc,
en fait. J'y croyais plus.
Donc, mais là, en plus, physiquement, t'as pensé que ça n'avait pas marché.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'on a eu une semaine avant qu'on ait les résultats et qu'on sache que ça ait marché, on a eu une soirée horrible où, je me souviens encore, on était au restaurant et Mathilde a fondu en larmes en disant « je le sens, ça n'a pas fonctionné, etc. » Donc, il y a eu juste avant le moment positif, il y a eu de nouveau une très très grosse déception à gérer. C'est comme si on avait eu besoin d'extérioriser une dernière déception avant de vivre le grand bonheur quelques jours après, même pas une semaine après.
À quel moment vous avez eu la certitude que les enfants allaient arriver ?
Je n'ai jamais eu cette certitude. Au bout de 6 mois de grossesse, je me suis dit, bon, il y a une possibilité que ça marche. Et puis finalement, j'ai accouché 1 mois plus tard. Mmh. Et là, bon, j'étais face à cette réalité d'avoir 2 enfants.
Voilà, sachant qu'on a eu des jumeaux. Ça nous allait très bien. C'était une stratégie qui avait été décidée avec la gynéco. Mais ce que ça rajoute, la spécificité en plus, c'est qu'ils arrivent souvent plus tôt. Il y a en plus un stress sur le fait qu'ils n'arrivent pas trop tôt.
Mmh. Oui, une grossesse gémellaire, c'est... médicalement aussi un peu plus compliqué.
Ouais.
Tout à fait.
Ouais. C'est complètement tombé à leur naissance. C'est-à-dire qu'après, je n'ai pas du tout été une mère angoissée. Ça n'a pas du tout impacté mon attitude de mère.
Merci à tous les deux, Mathilde et Julien. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne notre expert, Benoît Cailleul.
D'accord.
Bonjour Benoît Cailleul, vous êtes formé à la Gestalt Thérapie, vous travaillez à Paris dans un cabinet pluridisciplinaire autour de l'accompagnement de l'infertilité, l'arbre de vie dans le 14e arrondissement, et vous consultez également dans le 9e arrondissement. Comme Mathilde et Julien viennent de nous faire part de leur parcours d'AMP, je reçois également beaucoup de femmes, d'hommes, de couples dans ce parcours, qui est jalonné d'étapes, d'émotions, qui est souvent... difficile à expliquer aussi et à partager ce que vous nous avez dit, Mathilde et Julien. Tout d'abord, pour s'y retrouver, Benoît, qu'est-ce que c'est que l'AMP en France ? Quelles sont les conditions pour pouvoir y avoir accès ?
Alors, l'AMP correspond à l'assistance médicale à la procréation, qui est encadrée par la loi de bioéthique, qui indique que... ont accès à ce parcours médical les couples qui sont hétérosexuels, qui sont en âge de procréer. Alors, petite précision par rapport à ça, c'est pas la loi qui indique ça, c'est plutôt la sécurité sociale qui indique que pour la prise en charge, il y a une limite d'âge pour la femme qui est de 42 ans révolus, avec un certain nombre de filles qui... grosso modo, 4 tentatives de FIV prises en charge par l'AMP. Et pour l'homme, c'est un âge de 59 ans. Voilà. Donc c'est vraiment un cadre très spécifique, sachant que la loi de bioéthique est en train d'être revisitée. Exactement. Exactement. Et qui ouvre aussi sur d'autres sujets qui sont la levée de l'anonymat pour les personnes issues d'un don, de gamètes.
L'ouverture aux femmes seules et aux femmes seules lesbiennes.
Exactement.
Julien, Mathilde, à quel âge vous avez commencé ce parcours ?
À 31 ans pour moi.
28 pour moi.
D'accord. Benoît, combien d'enfants naissent tous les ans issus de ce parcours en France ?
Alors, l'Agence de biomédecine précise qu'un enfant sur 32 en France par l'assistance médicale à la procréation. En 2018, il y aurait un enfant sur 30, donc ça serait plus important encore. Sachant que parmi ces enfants-là, la FIV représente 70% des enfants nés par AMP, en fait. Donc, c'est principalement la FIV qui fonctionne en France. Hein. Ce sont vraiment des chiffres en France.
Donc, c'est la technique qui a les meilleurs résultats.
Exactement, exactement.
OK. Alors, Julien et Mathilde nous ont parlé, voilà, tout d'abord, dans l'entrée du parcours, il y a eu les examens médicaux, des examens voilà, différents pour vous, Julien, et pour vous, Mathilde. Benoît, dans les couples que vous accompagnez, ou les hommes ou les femmes que vous accompagnez, comment sont vécus ces premiers examens qui sont les prémices de l'annonce, bien souvent, de l'infertilité ?
Alors, pour la femme, il y a déjà un bilan hormonal qui vérifie, en fait, la réserve ovarienne. Et là, en fonction des résultats, justement, il peut y avoir des mauvaises surprises pour la femme qui ne se rend pas compte initialement que potentiellement, finalement, sa réserve ovarienne est très limitée, sachant que, justement, vous disiez que vous avez commencé à partir de 30 ans et qu'effectivement, cette réserve ovarienne diminue et la qualité des ovocytes diminue et s'accélère à partir de 35 ans. Donc c'est là aussi où effectivement ce terme d'horloge biologique est quelque chose de très très concret qu'il faut prendre en compte aussi dans le parcours d'AMP. Pour l'homme, c'est effectivement le spermogramme, et Julien l'a très bien décrit de façon très soft également, en expliquant que c'est un moment où on se retrouve seul dans une pièce et qu'il y a peu de place à l'érotisme. Voilà. Alors, pas du tout de place à l'érotisme. Je viens d'apprendre aujourd'hui par exemple que à Singapour, en fait, ils ont la possibilité de faire ça chez eux. Le recueil de sperme, ils ont 30 minutes pour l'amener au laboratoire, en fait. Ça serait quelque chose sur lequel on pourrait progresser en France, parce qu'effectivement, se retrouver dans un endroit dit glauque, par beaucoup de couples que j'accompagne, ça serait pas mal de prendre ça en compte aussi pour les hommes.
Alors, la particularité peut-être de votre parcours, Mathilde et Julien, c'est qu'il n'y a pas vraiment à proprement parler eu d'annonce, puisque vous, Mathilde, vous saviez déjà depuis... En tout cas, l'annonce avait eu lieu finalement des années plus tôt, voilà, par rapport à vos difficultés. Souvent, comment est vécu ce moment d'annonce, Benoît ?
Pour les hommes, lorsque ils considèrent que le problème vient d'eux, il y a une confusion souvent entre... infertilité et virilité, en fait. Voilà. Donc là aussi, c'est prendre le temps avec eux de voir quelle est leur perception de l'infertilité, ce qu'ils mettent derrière ce terme-là, infertilité, et de dissocier bien les deux en termes de perception de leur virilité, en fait. Voilà. Et remettre du viril dans l'infertilité aussi.
Oui, un terme d'ailleurs, là, ça m'évoque plusieurs couples que j'ai accompagnés où ce terme infertilité est d'ailleurs très parfois vécu de manière assez violente pour eux, voilà, d'être considérés comme infertiles. Voilà, ça peut être aussi un peu agressif.
Il y a ça et puis il y a la question de c'est ma faute. Finalement, est-ce que c'est vraiment une question de faute ? Voilà. Voilà. Donc il y a quelque chose à voir aussi dans ces cas-là en thérapie sur quelle faute la personne a commise. Voilà. De quoi elle est responsable.
Oui, là j'entends la question de la culpabilité. Est-ce que c'est un sentiment, Mathilde, que vous avez pu ressentir, de vous sentir voilà, coupable que les difficultés soient à l'origine dues à un problème médical vous concernant ?
Oui, absolument. Ça, c'était probablement une des choses les plus difficiles à vivre, surtout au moment des échecs de FIV où on commençait à aller plus loin dans le process. Et même, on a eu une discussion difficile après le premier échec de FIV dans laquelle je me demandais s'il fallait pas que je quitte Julien pour qu'il puisse avoir des enfants avec quelqu'un d'autre que moi, quoi. Mmh. Et ça, c'était très dur parce que, ouais, je me disais, il va falloir que je quitte quelqu'un que j'aime à la folie pour qu'il puisse vivre sa vie.
Il y a un élément là qui ressort de votre témoignage que je trouve qui est très fort, c'est vos désirs individuels d'avoir un enfant, mais désir de couple aussi. Mmh. Ça, c'est essentiel. Parce que je peux m'apercevoir quelquefois en accompagnant soit des hommes, des femmes ou des couples, que quelquefois ce désir ne se situe pas au même niveau. C'est-à-dire que c'est peut-être plus le désir de madame ou plus le désir de monsieur, mais finalement le désir de couple n'est pas nécessairement présent en fait. Voilà. Mmh. Là, ce qui est très fort dans votre témoignage, c'est qu'il est vraiment là. Il y a un désir de couple. Voilà. Ça, c'est très facilitant pour supporter tout ce processus-là que vous avez décrit, en fait. Voilà. Ça, c'est essentiel.
Oui, en tout cas, vous avez beaucoup souligné à quel point vous aviez été ensemble, des partenaires, et à quel point ça a été important aussi pour vivre le mieux possible, voilà, ces étapes, ces difficultés, les douleurs, parfois.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça n'a pas été la fin du process, puisque moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre 5 mois et demi de congé paternité à la suite de la naissance des jumeaux. On est restés tous les deux très soudés, même après la naissance des enfants. Ça a été une vraie aventure qu'on avait voulu vivre à deux.
En tout cas, c'est, j'imagine pour vous Benoît aussi, pas forcément le cas de beaucoup de couples, en tout cas au début que j'accompagne, où certains couples peuvent se sentir très seuls l'un et l'autre, voilà, chacun enfermé dans ses difficultés. Et je crois que vous avez vraiment souligné l'importance de la communication au sein du couple. Souvent j'accompagne les couples pour justement y retrouver une communication.
Derrière le terme communication, moi j'entends aussi partage de ce que chacun vit en fait dans ce parcours-là. C'est important de pouvoir partager ce que, en tant qu'homme, en tant que femme, et partager à l'autre déjà, à son conjoint, sa conjointe, ce que ça nous fait vivre en fait ce parcours de PMA. Voilà. Surtout, j'invite vraiment les hommes, les femmes et les couples à être attentifs à ça, à partager, au moins en tout cas dans cette entité de couple. Voilà. Après, la question de, est-ce qu'on en parle à notre environnement familial, amical, ça c'est autre chose, mais déjà au sein du couple, pouvoir être en contact avec ses propres émotions, les verbaliser, oser pleurer, vous avez dit ça tout à l'heure, c'est important ça, de pas retenir ses émotions.
D'accepter d'être traversé par celle-ci, voilà. Que ça soit parfois l'espoir, que ça soit parfois le désespoir, mais que ça traverse et puis que finalement, vous disiez Mathilde, ça s'arrête, voilà. Je pleurais pendant 4 jours et puis après finalement, voilà, y avait autre chose qui reprenait le dessus. Vous nous avez bien décrit finalement les différentes techniques médicales auxquelles vous avez eu recours, les stimulations, les inséminations, les FIV, tout finalement le parcours du protocole. Alors j'ai beaucoup entendu, vous avez beaucoup souligné Julien, l'importance pour vous d'avoir un plan, voilà, un plan d'action et d'un plan d'action à long terme, voilà, de savoir, je ne sais pas Benoît, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les couples que vous accompagnez, peut-être l'importance d'avoir une visibilité.
Pas systématiquement. En fait, là, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez décrit votre manière de vivre ce processus-là, donc votre besoin, c'était d'avoir cette visibilité-là. Il y en a d'autres, c'est j'ai besoin de le vivre étape après étape. Voilà. Et je ne sais pas où on va, peu importe, mais j'ai besoin d'être en capacité de le supporter étape après étape. Donc là, ce qui est important, c'est de voir comment chaque couple est en contact avec ses propres besoins pour mettre en place la manière dont il va bien supporter ce processus-là, en fait.
Souvent, ce qui revient, c'est l'intimité qui est dévoyée, mise à nu dans toutes ces étapes du parcours. Et puis, la question de l'organisation. C'est-à-dire, après la ponction, par exemple, quand reprendre le travail, Mathilde, vous disiez, vous connaissez des femmes qui ont repris le travail l'après-midi même. Pour vous, c'était absolument impossible. Voilà, toutes les questions qu'il peut y avoir aussi autour de l'organisation, de comment prendre en compte tous ces éléments-là dans la vie quotidienne.
Alors derrière ça, par rapport au lien entre travail et parcours d'AMP, il y a 2 choses. C'est, 1, est-ce qu'on décide d'en parler, notamment au travail ? Dans le droit du travail, en fait, il y a des possibilités de s'absenter, en fait, pour faire des examens dans le cadre de l'AMP aussi. Donc, tout le monde n'est pas au courant de ça. Et donc, pour que les RH accompagnent des personnes dans ce processus-là, autant faut-il que les RH soient informés de votre parcours en AMP, en fait. Voilà. Et là, c'est la question de... Est-ce qu'on se dévoile ou pas à notre entourage et notamment dans notre environnement professionnel? Donc là, c'est une question qui est à peser en fonction aussi de l'impact que ça peut avoir aussi vis-à-vis de son manager, etc. Heureusement, il y a des managers qui sont très soutenant dans ce parcours-là. D'autres, beaucoup moins. Je connais une personne qui, clairement, se mettait en arrêt de travail une demi-journée ou prenait un jour de congé pour faire ses examens. Voilà.
Oui, moi, j'ai énormément de patients, en effet, qui prennent des jours de congé alors que légalement, ils pourraient avoir accès à, en tout cas, prendre ce temps sur leur temps de travail.
C'est ça. Effectivement, en tout cas, c'est un parcours très normé, où il y a vraiment un protocole avec des dates. Voilà, Mathilde l'a dit, il faut se piquer à 18h tous les jours, c'est très précis. Il faut respecter ce parcours-là, ce protocole-là. C'est vraiment toujours présent dans l'air, en fait. Et c'est ça qui aussi met une forme de pression indirectement aussi pour chaque membre du couple.
Dans ces temps-là, Mathilde, Julien, vous avez eu l'impression que ça prenait toute la place ?
Oui, forcément, pour les raisons que vous venez de décrire, Benoît, parce que il faut mettre sa piqûre dans le frigidaire du bureau et qu'il faut pas oublier de manière très concrète. Hein, je veux dire, bien sûr, il y a toutes les angoisses sous-jacentes, mais il y a aussi très concrètement tout le protocole de soins à suivre et on ne peut pas y échapper. C'est absolument impossible de ne pas y penser.
Pour revenir sur le moment du transfert, voilà, qui souvent est un moment décrit comme un peu particulier. Alors vous disiez, Julien, voilà, que c'était un moment de beaucoup, beaucoup d'espoir pour vous. Vous étiez voilà, à chaque fois très positif et très enthousiaste en vous disant à chaque fois voilà, que ça va marcher.
En plus, c'est pas long. C'est-à-dire qu'on... Moi, avant d'y aller, je sais pas, par rapport à la ponction qui dure une demi-journée ou une journée... Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à quelque chose de plus long. Et en fait, en France, il tirait un rideau, et de ce qu'on a appris, il le retirait, et Mathilde était debout, et je me disais, enfin, pas debout tout de suite, mais debout quand même quelques minutes après, et ça y est.
D'ailleurs, on a eu une aventure assez drôle aux États-Unis là-dessus, où juste après le transfert, donc il a duré littéralement 2 minutes, ils nous ont donné des petites photos de nos bébés à l'état d'embryon. Et ils nous ont dit, voilà vos enfants. Donc ça a été aussi un gros choc culturel.
Oui, en tout cas, là, vous dites l'importance de prendre conscience, voilà, vraiment qu'il se passe des choses, vous le savez, voilà, toute la conception est disséquée, mais l'importance à ce moment-là aussi, voilà, de pouvoir accueillir ce qui est en train de se passer.
Je rebondirai sur ce que vous venez de dire là, justement, sur l'espoir que vous mettez en voyant la photo, justement. Vous avez dit au tout début en France, votre gynéco disait, normalement, ça devrait fonctionner. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Et finalement, vous avez eu un parcours quand même assez long. Là aussi, c'est toute la difficulté quand le corps médical vous donne de l'espoir et que déjà, soi-même, quand on est dans ce parcours-là, on met tout notre espoir dans le corps médical, enfin une grosse partie en tout cas. C'est toute la difficulté de réussir quand même à se projeter, parce que si on ne se projette pas, finalement, c'est qu'on n'a pas cet élan vital aussi d'y croire. Donc c'est important d'y croire. Mais pour autant, c'est ce dosage entre j'y crois, mais je suis attentif à ne pas mettre trop d'espoir non plus, parce qu'effectivement, Julien parlait de l'échec tout à l'heure. L'échec est d'autant plus difficile à supporter quand on a mis énormément d'espoir dans une tentative, en fait. Voilà. Et c'est d'autant plus frustrant après qu'on n'a même pas de raison pour laquelle ça n'a pas marché, en fait. Voilà. Donc, c'est ce dosage qui n'est pas facile, je trouve, aussi à gérer pour les couples, entre cet espoir-là, mais pas trop d'espoir aussi. Voilà.
Trouver un équilibre qui soit acceptable pour chacun.
Ouais.
Oui, on se protège.
Dans les facteurs psychologiques de gestion de l'échec, je le disais tout à l'heure, mais ne pas hésiter à, pas besoin de déménager aux États-Unis, mais à changer de médecin ou changer de clinique si on se sent plus, je ne vais pas dire en confiance, mais si jamais on sent que commence à avoir des vibrations négatives et qu'on se sent stressé avant même d'y arriver, il y a un vrai facteur psychologique. C'est peut-être un moment où se poser des questions, de changer de médecin, de faire une pause dans le processus, d'envisager une autre clinique ou un autre médecin ou un autre protocole.
Oui, et d'ailleurs, je relève rapidement ce que tu dis sur il y a un facteur psychologique. Ça, on n'a pas, je crois, beaucoup d'éléments médicaux qui nous permettent d'évaluer le facteur psychologique, mais c'est quelque chose d'extrêmement culpabilisant. C'est-à-dire que tout le monde dit « Ah, mais c'est parce que t'es pas bien dans ta vie » ou que t'es... t'es pas heureuse dans ton job, ou je sais pas, ils vont trouver, l'entourage va trouver plein de raisons qui expliquent que parce que on n'est pas bien dans telle ou telle sphère de notre vie, c'est pour ça que ça ne marche pas, et donc en fait c'est à cause de nous, quoi, tout ça. Ça, c'est très dur à vivre.
Et donc l'importance là de mettre toutes ces injonctions à distance. En tout cas, par rapport à ce que vous venez de dire, Julien, vous dites voilà, vraiment l'importance d'être à son écoute, voilà, par rapport au choix du médecin. Peut-être aussi, là, je pense aux conditions, par exemple au moment du transfert, l'importance, si on n'a pas envie de se lever tout de suite, de prendre 5 minutes, de s'autoriser finalement, qu'il y a plein de choses que disent les médecins, mais vous pouvez aussi vous autoriser des choses et de mettre en place les meilleures conditions possibles pour que ça se passe bien. Là, je pense aussi à beaucoup de patientes que j'accompagne qui, au début, retournaient tout de suite travailler et puis qui, après, petit à petit, se sont autorisées à poser 1 ou 2 jours de congé, voire plus, parfois être même arrêtées jusqu'au temps du résultat parce que c'était ce qui était le plus confortable pour elles. Voilà, en tout cas, l'importance d'être connecté à ce qu'on ressent et à ce qui est bon pour soi. Ça m'évoque cette phrase de « il faut tout un village pour élever un enfant », je crois. Souvent, je parle de la matrice de soutien pendant la grossesse, mais là, aussi en préconceptionnel, il y a besoin de toute cette matrice de soutien également.
C'est pouvoir identifier aussi les personnes qui peuvent être ressources pour vous dans ce processus-là. Voilà. Donc ça veut dire aussi identifier les personnes qui vont pouvoir accueillir ce que vous partagez, si vous avez envie de partager des choses, et qui pourront être soutenants et pas effectivement être dans ces injonctions, arrête d'y penser, etc. Parce que là, il n'y a rien de plus catastrophique que ça. Il y a des personnes qui, sans vouloir mal faire initialement, ont des approches plus contre-productives qu'autre chose. Donc voilà. Donc effectivement, c'est comment vous créez les bonnes conditions pour vous. Effectivement, si ça ne se passe pas très bien au boulot, ça peut quand même avoir un impact quand même sur votre niveau de disponibilité pour accueillir cet enfant-là. Parce qu'il y a quand même ce problème professionnel qui est quand même présent aussi, alors que vous êtes déjà dans un projet personnel qui prend beaucoup de place. Voilà. Donc c'est effectivement comment se mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir vous mettre dans ce bon processus-là et accueillir un enfant et laisser un enfant se développer en vous, en fait. Voilà. En vous, je parle même à monsieur, hein. Voilà, c'est au sein du couple. Voilà.
On vient de parler de la matrice de soutien. Julien et Mathilde, vous nous avez dit que vous n'avez pas eu besoin finalement d'être accompagné en dehors du processus médical. Benoît, les couples voilà, que vous accompagnez, donc qui viennent vous voir en plus du parcours médical, comment ils viennent à vous ?
L'origine en fait de la revenue, il y a plusieurs choses. Ce sont des médecins. Alors quelques médecins, voilà. Mm-hmm. En tout cas, peu de gynéco. C'est plutôt d'autres médecins ou d'autres psychologues. C'est le bouche à oreille aussi, comme ça que ça se passe. Voilà. Ou c'est parce qu'à un moment ou un autre, j'ai communiqué sur tel réseau social aussi, qui fait qu'ils ont connaissance aussi de certains éléments que je mets en avant. Voilà. Après, la demande n'est pas toujours la même. Ça dépend vraiment de là où ils en sont dans le parcours. Le constat que je peux faire, au moins, c'est qu'ils ne viennent jamais en amont de ce parcours de PMA. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un, voire plusieurs échecs, en fait. Et c'est là qu'une demande initiale peut être le fait de soutenir leur souffrance et faire en sorte que ça, ils vivent davantage et mieux la suite de leur parcours. Mais après, il y a d'autres choses aussi qui peuvent être en jeu. C'est est-ce que finalement on continue ou on arrête ? Est-ce qu'on passe par un don d'ovocyte ou pas ? Est-ce qu'on passe à une autre étape ? C'est l'adoption. Voilà. Est-ce qu'on se sépare ? Vous l'avez dit, Mathilde. Hein. Est-ce qu'on continue ensemble ou pas aussi ? Parce que ça peut faire exploser. Ça fait exploser des couples. Voilà. Donc la demande est assez variée.
Alors moi, ça arrive quand même. Alors plus les femmes seules, mais qui au moment des examens viennent me voir dans cette perspective de passer à quelque chose de médical, souvent qu'elles redoutent, qui leur semble très effrayant, très voilà, difficile, douloureux, invasif. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent venir consulter.
Sachant que ce sont effectivement plus souvent les femmes qui consultent que les hommes. Alors après, il y a les couples aussi, bien évidemment. C'est vrai que j'invite les hommes à partager déjà au sein de leur couple ce qu'ils vivent, et puis si c'est un peu difficile aussi qu'ils viennent en séance aussi, en cabinet.
Oui, ça c'est ça. Quelque chose que je propose d'ailleurs souvent, et je dis aux femmes voilà, que ce parcours, comme vous l'avez bien souligné Julien et Mathilde, c'est à deux, voilà, c'est à deux qu'on fait un enfant, et du coup voilà, la place de l'homme est quand même très importante, et le fait qu'ils viennent à une séance, parfois qu'ils entendent aussi sa femme dans ses difficultés, parfois qu'elle n'a pas pu exprimer, ou dans ce cadre particulier du cabinet, qui va entendre les choses un peu autrement, ça permet souvent de remettre de la communication qui parfois a été un peu rompue.
Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de au-delà de l'aspect médical, l'aspect psychologique, c'est remettre du corporel et de l'émotionnel aussi dans ce parcours-là. Ça peut être le fait de voir un kiné, un ostéo. Si le processus marche, faire de l'aptonomie aussi. Ça, je ne sais pas si vous en avez fait.
Non.
L'aptonomie, c'est une manière, en fait, finalement, de lorsque la grossesse est en cours, d'intégrer le papa dans ce processus-là, de mise en contact du père avec son enfant en plaçant sa main ou ses mains sur le ventre de sa femme, en fait, et d'être en contact avec son enfant par ce biais-là. Voilà.
En tout cas, là, Benoît, vous nous dites qu'une fois que la grossesse se met en route, que l'accompagnement à la naissance et à la parentalité peut être un moyen peut-être de réparer des difficultés qui ont pu être vécues et douloureuses dans le parcours d'AMP. Mathilde, Julien, est-ce que vous avez dit à vos enfants la manière dont ils ont été conçus ?
Non, pas encore. Ils ont 2 ans. On leur dit où ils sont nés. On leur dit évidemment qu'ils sont nés ensemble. Mais on n'aura pas encore expliqué ça, non. On le fera.
On n'y a pas réfléchi.
Je pense qu'on leur dira, parce qu'on a envie de partager ça avec eux. Mais je pense, quand ils seront en âge de le comprendre, ça sera intéressant, parce que je pense que notre société va aussi vers... Vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, ça arrive de plus en plus souvent. Les couples homosexuels vont un jour ou l'autre, en tout cas moi c'est notre souhait, y arriver aussi. Donc voilà, ça va être de plus en plus présent quelque part dans notre société. Et ça sera important qu'ils sachent qu'ils ont aussi été le fruit de ces techniques, en tout cas.
Oui, en tout cas, ça dit vraiment quelque chose de la force aussi de votre désir. Donc, pour des enfants, savoir qu'ils ont été désirés aussi fort, que vous avez traversé toutes ces étapes, c'est voilà, quelque chose qui peut aussi ancrer de manière très forte. Là, on parlait du fait d'en parler à vos enfants. Est-ce que souvent cette question est quand même liée au fait d'en parler à l'entourage, notamment à la famille ou aux amis proches ? Alors, ça touche aussi à la question du secret. Voilà, il y a des couples qui gardent ça secret pour eux. Voilà, quelle a été, vous, votre position par rapport à ça ?
La seule chose dont j'ai souffert, c'est finalement soit les injonctions des gens qui, finalement, n'ont pas eu du tout cette expérience-là et se permettent de donner des leçons, etc., etc. Donc, ça m'a exposé, le fait de le partager, ça m'a exposé à ça. On a même eu des injonctions a posteriori, c'est-à-dire une fois que ça avait réussi, c'était oh bah tu t'es vraiment inquiété pour rien, tu vois ça a marché, je te trouvais très négative, etc.
Alors là,
maintenant je rigole, mais.
Alors là je trouve que c'est pareil, c'est malheureusement la femme est le plus souvent la cible dans le couple et le plus souvent la cible de ce genre de remarques. Il y a un côté sexiste à ces remarques maladroites, pour pas dire bêtes. Malheureusement, c'est une des autres choses, au-delà du côté physique qui est parfois difficile à appréhender pour l'homme. De la même manière, l'homme, enfin, en tout cas, moi, je me suis senti parfois un petit peu gêné parce que j'avais l'impression que c'était Mathilde qui était la cible de ce genre de remarques. Moi, on venait pas du tout me voir en me disant, oh, t'es trop stressé au boulot, c'est pour ça que ton sperme est de mauvaise qualité et que vous y arrivez pas.
Julien, Mathilde, vous nous disiez voilà, que maintenant vous êtes les heureux parents de jumeaux, un garçon et une fille qui ont 2 ans. Comment, voilà, alors vous nous avez déjà un peu dit, Mathilde, voilà, la grossesse qui vous a fallu quand même du temps pour vraiment réaliser, voilà, concrétiser voilà, que ces enfants allaient vraiment enfin arriver. Aujourd'hui, quel impact pour vous ça a eu dans votre parentalité ?
Oui, parce que finalement, je pense qu'on a accueilli ces enfants avec quand même un grand bonheur, un bonheur qui se sait, quoi. C'est-à-dire que on était conscient réellement de la magie d'avoir des enfants. Et ça nous a donné une sacrée énergie qui nous a permis de tenir les tunnels des premiers mois. Finalement, ça a été assez positif. Et cette angoisse de la grossesse, je ne l'ai pas du tout gardée, comme je vous le disais, en tant que parent. Et puis, par ailleurs, moi, dans ma vie, ça m'a montré qu'en fait, je pouvais y arriver.
Bon, en tout cas, on a vu avec votre témoignage, Mathilde et Julien, voilà, qu'avoir des enfants avec l'aide médicale, c'est quand même jamais anodin, tant individuellement que pour le couple, que pour l'enfant ou les enfants à venir, que voilà, c'est tout un processus jalonné d'étapes, d'ascenseurs émotionnels, voilà, qui chahutent en tout cas beaucoup d'émotions qui peuvent être très bouleversantes. On a pu voir avec vous, Benoît, l'importance voilà, dans tout ce parcours de prendre soin de soi, de se faire accompagner si besoin, voilà, de ne pas rester seul. Et puis, pour faire un enfant, il faut être plusieurs, en couple, et puis pas hésiter à mobiliser des ressources, une matrice tout autour de soi. Souvent, je recommande des lectures à mes patients, Mathilde, Julien, est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a aidé ou une vidéo ou un conseil peut-être à donner aux parents, aux futurs parents qui nous écoutent ?
On n'a rien lu. On n'a pas du tout lu de livre. Mais par contre, c'est ce que vous disiez avant, hein, mais on a beaucoup parlé. On a parlé énormément entre nous.
Benoît ?
Alors, il y a plusieurs livres alors, qui sont en ligne justement sur le site de l'Arbre de Vie. Mmh. Il y a toute une série de livres. Il y a un livre qui s'appelle « Les verrous inconscients de l'infertilité » qui est très accessible, écrit par à la fois une journaliste et une psychanalyste et qui connaît très bien ce sujet de l'AMP et qui décrit justement à la fois tout ce processus que vous avez décrit là et en même temps toutes les autres questions que ça soulève en lien avec des problématiques individuelles psychologiques en fait. Voilà. Mmh.
Merci beaucoup Mathilde et Julien pour votre témoignage et puis merci beaucoup à vous Benoît. Je rappelle que vous êtes formé à la gestalt-thérapie, spécialisé dans l'accompagnement de l'infertilité, que vous exercez à Paris dans le 9e et le 14e arrondissement. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Merci.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.